5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Alors avec Orion, Chemin de l'espace, nous allons évoquer aujourd'hui pourquoi explorer l'espace, qu'allons-nous faire dans les étoiles, si on ne va pas ou plus dans l'espace et si on se prive des satellites, que se passe-t-il? Alors avec vous Jean-Michel, nous allons évoquer d'abord l'effet marquant de la conquête spatiale et de l'aventure de l'homme dans l'espace, ensuite comment ça marche un satellite. Et puis, qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie des hommes? Alors finalement, la Terre ne suffit plus aux hommes d'aujourd'hui, il faut qu'ils aillent dans l'espace.
De tout temps, l'homme a cherché à conquérir les espaces sur la Terre et sur mer. Et puis un jour, il a eu les moyens de s'extraire un petit peu de sa planète et de pouvoir partir dans l'espace. Et donc, ce fut le début de la conquête spatiale.
Alors, y a-t-il un homme qui marque un petit peu ce passage, ce changement dans l'époque moderne?
Ils sont plusieurs. Notamment, il y a eu Konstantin Tsiolkovsky, fin du 19e, début du 20e, qui disait « La Terre est le berceau de l'humanité, mais l'homme ne peut pas passer sa vie éternellement dans son berceau ».
Oui, en fait, dans le berceau, il y avait aussi cette envie d'ailleurs, ce goût du risque, de la découverte. L'homme s'est donné aussi des moyens importants récemment pour tenter cette aventure. Quelles sont les grandes étapes, les faits marquants de cette
époque? Parce que d'abord, je veux rappeler que Tsiolkovsky n'était pas seul. Il y avait aussi Hermann Oberth en Allemagne, il y avait Goddard aux États-Unis et un Français aussi, il ne faut pas l'oublier, Robert Elno-Peltery.
Alors, ça, ce sont les pionniers. Ils sont les pionniers. Il y a aussi sans doute des programmes déterminants, parce que l'argent étant le nerf de la guerre, les pionniers avaient besoin effectivement de soutien, de décision. Quels sont les grands programmes qui ont marqué?
Alors effectivement, ils avaient besoin de financement pour mener à bien leur projet. Mais bon, on va dire que dans les années 50, l'URSS à l'époque et les États-Unis cherchaient un petit peu, surtout sur le plan militaire, à pouvoir s'élever dans le ciel. Grâce à l'héritage un petit peu des fusées V2 allemandes. Et donc de chaque côté, on a d'abord développé des missiles balistiques et puis finalement le 4 octobre 1957, à la stupéfaction de tout le monde, le premier Sputnik va se mettre en orbite autour de notre planète.
Alors ça a été un événement, les jeunes de notre époque n'imaginent pas effectivement ce choc culturel qui a été... Le premier Spoutnik.
Le premier Spoutnik. Un Spoutnik en russe, ça voulait dire compagnon. Et ce petit compagnon a été le satellite, le premier à tourner autour de notre planète bleue.
Alors, en Haute-Loire, il y a aussi un fait divers qui avait marqué l'opinion, là, ce Spoutnik qui était perdu, qui serait tombé près de chez nous.
Alors, il y a eu un petit canular, c'est pas en Haute-Loire, c'est dans la Loire,
sur
la commune de Saint-Bonnet-le-Coureau, quelques mois après donc le lancement de ce Spoutnik, on a trouvé une petite boule avec un petit clignotant, et on disait à l'époque que le Spoutnik serait retombé à Saint-Bonnet-le-Coureau. Mais c'était un canular dont on n'a jamais trouvé la réponse.
En tout cas, depuis Spoutnik, effectivement, il y a eu de nombreux lancements qui ont succédé, de nouvelles étapes que nous allons évoquer tout à l'heure, et aussi dans les autres et futures émissions de Chemin de l'espace avec Orion, puisque nous aurons l'occasion de passer en revue effectivement chaque sujet plus en détail que ce que l'on va évoquer aujourd'hui. La présence humaine aujourd'hui dans l'espace, il y a du monde.
Il y a du monde. Actuellement, donc, il y a 6 personnes. Alors, ce sont 6 hommes tout de suite, mais il y a aussi des femmes qui sont dans ce qu'on appelle l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Donc, un immense mécano, puisqu'il fait près de 500 tonnes, qui tourne à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes en 1h32 et qu'on peut voir passer dans le ciel de Haute-Loire à certaines périodes, dans le ciel du matin ou dans le ciel du soir, on voit un gros point lumineux qui se déplace et quand on le regarde, si on sait que c'est vraiment la station spatiale, on pense à ces 6 hommes qui sont là-haut et qui réalisent des tas d'expériences qui vont nous servir dans le quotidien.
On peut parler d'une routine des astronautes dans l'ISS aujourd'hui ou bien ça reste encore l'aventure?
Il y a la routine, mais c'est quand même un peu l'aventure, puisque les équipages se relaient tous les 5 mois et demi, 6 mois. Et donc, il y a des lancements régulièrement qu'on peut suivre en direct sur Internet, avec le seul outil qui nous permet aujourd'hui de monter dans l'espace, puisque c'est le Soyouz russe.
Thank you.
Pourquoi explorer l'espace avec Orion, chemin de l'espace, Jean-Michel? Ces satellites qui nous gouvernent, c'est une expression que vous utilisez souvent. Tout d'abord, c'est quoi un satellite?
Un satellite, on en a parlé tout à l'heure, c'est le premier objet qu'on a lancé le 4 octobre 1957, cette petite boule, cette petite sphère qui a fait le tour de la Terre et qui à l'époque n'avait qu'un petit émetteur qui faisait bip bip. Mais aujourd'hui, depuis cette époque, on en a lancé énormément. On compte aujourd'hui plus de 1000 satellites actifs, sans compter tous les objets qui sont inutilisés, les débris spatiaux.
Alors, on viendra peut-être sur cette multitude d'objets qui nous entourent, qui nous menacent peut-être aussi. Mais quels sont les différents types de satellites? On entend parler de géostationnaires, de télécoms, etc. C'est quoi? Comment expliquer ça un peu simplement?
Alors, ils sont multiples. Il y a tous ceux d'abord, qui, comme vous dites, qui sont géostationnaires, donc qui sont placés à 36 000 km là-haut au-dessus de nos têtes et qui vont nous donner par exemple la météo, la télévision, bien d'autres informations. Et puis, il y a tous ceux qui sont en orbite.
Alors, les géostationnaires, c'est quoi? Géostationnaire, ça veut dire qu'ils stationnent quelque part?
Ils stationnent, veut dire, en position relativement fixe par rapport à la rotation de la Terre pour donner en temps réel toutes les informations sur une zone géographique.
Donc par rapport à l'ISS qui était à 400 km?
400 km.
Là, on est à 36 km.
36 000 km.
Pardon. Et donc, leur qualité à eux, c'est de rester toujours sur un point apparemment fixe depuis la Terre. Alors que l'ISS tourne autour de la Terre, on a la perception d'un mouvement.
On a l'illusion, c'est une illusion d'être fixe, parce qu'ils arrosent à peu près toujours la même zone géographique. Mais il y a tous ces satellites aussi qui vont tourner en 1h32 pour l'ISS, qui vont photographier la surface de la Terre, donner des informations, transmettre des données radio, des communications, etc., etc.
Donc, effectivement, tout un tas de fonctions que l'on voit apparaître récemment, finalement, dans l'histoire. C'est quoi cette histoire-là? À quoi? 20 ans, 30 ans, 40 ans maximum?
Dès le début, dès que les Américains et l'Union soviétique à l'époque ont pu lancer leurs satellites, la première chose, c'était de photographier et puis de regarder ce qui se passait en bas et de le faire de beaucoup plus haut que les avions, par exemple.
Alors, il faut lancer effectivement tous ces objets qui sont lourds, qui ont une masse effectivement. Quelle est la prouesse technique pour faire ça? Quelles sont les conditions techniques pour réussir un lancement et à positionner un satellite à sa bonne place?
Pour lancer un satellite, il faut le faire. On va le faire déjà d'abord le plus près de l'équateur possible parce que ça consomme beaucoup de carburant. Donc, il faut énormément de carburant pour lancer un satellite. Il faut s'arracher de l'attraction terrestre.
Donc, près de l'équateur, pourquoi? On utilise déjà la vitesse de la Terre?
On est plus près, on va être plus près des étoiles. C'est une façon de parler. Mais disons que plus on est près de l'équateur, pour mettre un satellite en rotation autour de la Terre, on consommera moins de carburant pour aller le positionner sur ce qu'on appelle son point d'éjection.
Oui, parce que la vitesse de la Terre, on le rappelle, à l'équateur est à peu près de 1600 km. À l'heure,
Donc
on gagne déjà ces 1600 km, à condition de partir dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la rotation de la Terre. Donc on voit que les grands sites mondiaux cherchent le plus possible à se rapprocher de l'équateur. Ces grands sites, c'est quoi? Alors pour nous, c'est Kourou, pour l'Europe.
Pour nous, c'est Kourou, donc un peu c'est le Cap Kennedy en Floride, ça va être Baïkonour au Kazakhstan.
Là, on n'est pas près de l'équateur, mais disons qu'on est au plus près.
On est au plus près parce que chaque puissance spatiale va essayer de se rapprocher. Mais il est bien évident que l'Inde ou le Japon, ils sont déjà un petit peu plus loin. Mais bon, ils consomment peut-être un peu plus de carburant.
Alors, pour s'échapper de la Terre, évidemment, on consomme du carburant, mais il faut gagner une certaine vitesse.
C'est la vitesse de libération qui approche les 8 km secondes, soit 28 000 km heure environ. Voilà pourquoi un satellite évite de retomber sur Terre. Donc, il aura aussi dans ses réservoirs un petit peu de carburant pour le mettre dans une position adéquate à sa mission.
Donc, en fait, on va avoir plusieurs étages de puissance, on va dire, de moteurs. Une fusée, c'est quoi? C'est deux, trois étages,
allumages successifs. Alors, différents systèmes. Par exemple, Ariane utilise des propulseurs à poudre, d'autres fusées utilise du kérosène et avec d'autres carburants. Il est bien évident que comme là-haut il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air, après lorsqu'on sort des couches de l'atmosphère, il faut dans ce qu'on appelle des carburants et des comburants.
Donc on voit bien que c'est à la vitesse zéro qu'il faut le plus de puissance, d'énergie et de consommation.
Tout à fait.
Et que plus on s'élève et mieux c'est.
Voilà.
À condition d'avoir la vitesse requise.
Alors au départ, on consomme énormément. Hein, donc là, il faudrait trouver des exemples. Hein, mais bon, c'est d'énormes camions-citernes, on va dire, qui en quelques secondes sont engloutis dans les propulseurs de la fusée.
Alors, on parlait des objets. Vous aviez cité effectivement tout à l'heure le nombre de satellites, environ 1000, c'est ça aujourd'hui?
On compte à peu près, oui, un petit peu plus de 1000 satellites actifs, mais ce chiffre dont on parle en ce moment va être changé dans les semaines et les mois qui viennent, parce qu'on en lance régulièrement chaque mois.
En tout cas, on retient qu'il y en a énormément. Il y a aussi tous ces objets. Alors, c'est quoi ces objets? Quel type d'objets? D'où proviennent-ils?
Alors effectivement, si on parle du Spoutnik qui a été lancé en 57 et qui a été en orbite basse, qui s'est très vite consumé dans l'atmosphère, on a cherché après de lancer de plus en plus haut. Et puis ces satellites qui ont une durée de vie au début relativement courte et puis maintenant de 10 à 15 ans, à un moment, soit ils tombent en panne, soit ils sont mis à la retraite et on va les mettre un petit peu sur des orbites poubelles, hein, il faut le dire comme c'est, voilà, et ils sont inactifs. Alors c'est vrai que petit à petit, donc n'ayant plus de fonction, plus de carburant, ils vont redescendre lentement, mais par exemple un satellite à 600 km mettra de très très nombreuses années avant de se consumer dans les couches de l'atmosphère.
Alors, donc on l'isole dans une zone bien identifiée et maîtrisée, ou bien alors certains peuvent retomber et se consumer en rentrant dans l'atmosphère, c'est
alors,
ça?
Certains vont pouvoir retomber dans l'atmosphère et se consumer, ou alors volontairement, on va pouvoir faire descendre dans les couches supérieures de l'atmosphère un objet, un satellite. Pensons à la station Mir en 1999, qu'on a précipité dans le Pacifique.
Alors, d'autres objets, j'allais dire, circulent autour de la Terre. On aura l'occasion de parler d'un certain nombre de ces astres, des objets naturels, on va dire. Il y a aussi des sondes, c'est-à-dire qu'il y a des satellites qui s'arrêtent et qui tournent autour de la Terre, et puis il y en a d'autres qui vont plus loin. Un mot quand même, même si on aura l'occasion, dans Chemin de l'espace, de revenir plus précisément sur les sondes.
Un satellite, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui tourne autour d'une autre chose. Donc, la Lune, notre premier satellite, par exemple, elle tourne autour de la Terre. Pour vous évoquer un petit peu ce que vous dites, on a essayé donc de se libérer complètement de l'attraction terrestre et d'envoyer des sondes, on les appelle sondes, des objets qui vont aller peut-être sur la Lune, sur Mars et bien plus loin. Donc je pense à Voyager qui a dépassé les confins du système solaire.
Et qui est sorti effectivement aujourd'hui de notre univers immédiat.
Il est sorti de notre univers immédiat.
Alors Jean-Michel, pourquoi on fait tout ça? À quoi ça sert?
Eh bien ça sert un petit peu parce que ça nous a apporté beaucoup. On s'est rendu compte que de là-haut, on pouvait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, observer, envoyer des communications. Et donc ce sont des outils aujourd'hui qui sont indispensables à notre quotidien.
Donc il y a une forte demande aujourd'hui, grandissante, dans différents domaines, en particulier la géolocalisation bien sûr, mais d'autres domaines, oui. L'agriculture.
Le GPS est devenu incontournable, dès qu'on monte dans son véhicule, que ce soit les avions, que ce soit les camions, les bateaux, tout le monde utilise cette fonction GPS.
Donc le GPS, en deux mots, c'est effectivement un signal que nous renvoie le satellite ?
Alors c'est un signal que nous renvoie une flotte de satellites, hein, notamment bon, le GPS. C'est le Global Position System, hein, mis par les Américains, mais aussi on est relié avec le GLONASS russe, et donc tout ça mis en relation avec des satellites, notamment comme Artemis, donc qui vont nous donner une précision au mètre près sur notre Terre.
Donc on le retrouve par exemple dans les transports, dans la connaissance du positionnement d'un autobus, d'un taxi, d'une voiture de police, etc. On peut en déduire le temps d'attente aussi pour un autobus dans une ville, etc. Donc ça, c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes, mais qui se traduisent concrètement par un vrai service.
C'est notre quotidien. Hein. Je pense à une application donc qui c'est pas le transport, c'est la construction du viaduc de Millau par exemple qui a été construit par GPS avec une précision millimétrique.
Voilà. Donc là, on était sous l'œil du. On verra peut-être que c'est un Big Brother. En tout cas, sous l'œil bienveillant, en tout cas de plusieurs satellites.
De plusieurs satellites. Ouais. Et on avait mis aussi des relais à Millau, sur le pont et sur une colline voisine pour être très, très précis.
Ah. Alors, le transport, on l'a vu, mais dans l'agriculture aussi. La Haute-Loire est un département agricole. Donc, ça sert à quoi les satellites pour les agriculteurs ?
Alors, l'agriculture en Haute-Loire a des petites surfaces, mais je pense par contre à des grandes régions comme la Beauce, l'Abri, donc où il y a des programmes satellites, notamment le programme FarmStar, où un tracteur équipé donc du matériel et relié par satellite va pouvoir doser un petit peu son engrais sur son terrain, voir les zones qui sont plus riches, moins riches. Donc les tracteurs, bien sûr, aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux des années 50.
Alors un autre domaine aussi qui est très important et que l'on découvre de jour en jour, c'est la biodiversité. Donc quelques exemples on peut citer pour illustrer ça.
De là-haut, on va pouvoir observer un petit peu la fonte des glaces, on va pouvoir observer donc les glaciers de l'Himalaya, on va pouvoir observer la déforestation en Amazonie, on va pouvoir observer le mouvement des animaux sur mer grâce aux balises Argos. On va pouvoir, un exemple aussi, c'est l'étude du frelon asiatique qui est en train de nous envahir un petit peu en France.
Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus
un apiculteur équipé d'une petite boîte avait relié donc par satellite va pouvoir compter sur son ordinateur le nombre de prises de frelons asiatiques près de ses ruches.
Alors c'est quelque chose qui fonctionne déjà.
C'est quelque chose qui fonctionne déjà donc dans la région du Sud-Ouest, mais bon, petit à petit, je sais qu'il y a beaucoup d'apiculteurs en Haute-Loire et qui peuvent être intéressés par cette application.
Eh bien, s'ils ont des questions à vous poser, ils peuvent nous contacter sur le groupe Orion.
On leur donnera le lien vis-à-vis donc du CNES, le Centre National d'études spatiales.
Alors à quoi ça sert les satellites ? Il y a aussi tout l'aspect sécuritaire, pas que militaire d'ailleurs, mais militaire aussi.
Militaire, bien sûr. Alors là, les données, bien sûr, sont codées. Hein, donc, des satellites militaires comme Syracuse ou Athéna Fidus, donc qui sont les satellites militaires donc de nos armées. Donc, sur les champs d'opération, que ce soit en temps de conflit ou en temps de paix, vont pouvoir donner des précisions relativement importantes pour l'évolution des troupes au sol.
On peut dire que dans les grands programmes qu'on évoquait tout à l'heure, le militaire a été un moteur fort et que les bénéfices civils aujourd'hui sont quand même le fruit peut-être de cette recherche militaire de l'époque et qui continue.
Oui, au départ, hein, rappelez-vous, on cherchait à lancer des missiles, des missiles balistiques, et puis on s'est rendu compte qu'avec ces missiles, sans avoir une charge destructive, on allait pouvoir lancer une application civile de surveillance. Je pense à un des premiers satellites américains qui avait été lancé, qui surveillait un petit peu le blé en URSS à l'époque. Et ben si les champs de blé étaient productifs, on savait que le cours du blé serait beaucoup plus bas. Et si donc les champs de blé étaient moins productifs, on allait pouvoir faire monter le cours du blé. L'économie était rentrée dans nos satellites.
Et puis il y a aussi le secteur médical qui est concerné.
Alors le médical, par exemple, il y a des programmes qui sont mis en place, notamment le programme Diapsat. On va pouvoir surveiller le diabète par satellite. Notamment une des applications qui se fait avec l'hôpital de Rangueil à Toulouse, hein, où on surveille le diabète des patients. Je pense à une chose aussi sur un programme d'échographie qui peut se faire en zone défavorisée ou rurale, on va pouvoir faire une échographie grâce à un camion relié par satellite. Et à l'hôpital de Toulouse, eh ben, le médecin échographe va pouvoir savoir s'il faut hospitaliser ou non la personne.
Un mot aussi sur la conduite automobile. On voit apparaître des voitures qui marchent toutes seules. Et le satellite y est pour quelque chose ?
Tout à fait, tout à fait. Il y a des programmes qui peuvent être mis donc dans un véhicule. Je pense à Vulcania aussi. Il y a un petit véhicule solaire. Je ne me souviens plus s'il est relié par satellite. Mais tous les constructeurs automobiles ont des projets de véhicules qui sont automatiques.
Alors de grandes attentes finalement du côté des hommes, et on satisfait déjà beaucoup de besoins. Et on voit que ça galope et qu'il y en a de plus en plus et que les satellites sont attendus finalement.
Alors écoutez, ça va très très vite parce que je vous ai parlé des satellites qui observaient la Terre, les mers qui photographiaient, qui nous donnaient plein de choses, et on en lance toujours de nouveau. Je pense au satellite Sentinel qui va être lancé prochainement. Il y en a une série de 7 et donc qui ont des données radar, des données imagerie qui sont très très pointues. Au fur et à mesure que la technologie avance, on lance de nouveaux satellites.
Alors il y a quand même une chose qui semble émerger en fait de cette histoire, c'est quand même une certaine, en dehors du militaire, une certaine harmonie entre les différents États. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'homme avec un grand H, plus que les nations, ou au contraire, sont des programmes nationaux qui l'emportent ?
Eh bien, on va dire que donc, il y a l'homme avec un grand H dans la station spatiale internationale, ou parce que toutes les nations coopèrent dans ce grand mécano. Mais il y a aussi chaque nation qui cherche à avoir un petit peu des données qui sont très personnalisées. C'est la technologie, c'est la recherche. Si on a inventé quelque chose, on va essayer de le mettre au point le plus précisément possible, peut-être après pour le commercialiser.
Eh bien, ça peut être un bel exemple, en tout cas, à soutenir. Alors, enfin, on ne peut pas ne pas évoquer ça. Les satellites, c'est aussi le Big Brother qui surveille tout le monde. On est sous contrôle. Et c'est pour ça que vous parlez peut-être de ces satellites qui nous gouvernent, qui nous surveillent en même temps.
Alors, ils nous gouvernent parce que c'est indispensable aujourd'hui. Dès qu'on monte dans sa voiture, dès qu'on va utiliser Internet, même si on va retirer de l'argent au distributeur de billets de banque, il est possible que ça soit relié par satellite. Mais après, bien sûr, il y a toutes ces écoutes, hein, des écoutes qui sont civiles, des écoutes qui sont militaires, des écoutes qui sont au service, on va dire, le plus possible de l'homme, hein, c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Mais tout le monde écoute tout le monde, hein, que ce soit, on s'est étonné un petit peu que l'Amérique écoutait donc avec des grandes oreilles, mais nous aussi, en France, nous avons un réseau d'écoute, toutes les nations ont un réseau d'écoute.
Alors Jean-Michel, le thème de cette émission, c'était pourquoi explorer l'espace et qu'allons-nous faire dans les étoiles ? Votre réponse en fin d'émission, c'est que si on ne va plus dans l'espace et si on se prive des satellites,
le monde s'arrête. Aujourd'hui, nous sommes dans une dépendance satellitaire totale. Énormément de choses fonctionnent par satellite, des fois sur des applications qui nous surprennent. Et le CNES a fait une étude en 2010. Si les satellites s'arrêtaient, ils se sont fait quand même un petit peu peur.
Alors, si cette émission vous a intéressé et qu'elle éveille en vous certaines questions, en termes de bibliographie, Jean-Michel, on peut recommander un livre ou deux ?
Alors en livre 2, sur la moralisation de l'espace, si vous voulez, je vous propose le livre de Jacques Arnoux, Qu'allons-nous faire dans ces étoiles ? Jacques Arnoux est embauché par le CNES et un peu a le côté éthique du CNES pour nous parler de toute cette conquête.
Donc il est édité aux éditions Bayard.
Tout à fait.
Et puis il y a également le site du groupe Orion, le groupe d'astronomie du Volet, dont on rappelle le site.
Alors www.orion43.fr.
Voilà, et donc vous êtes les bienvenus sur ce site. Cette émission s'achève. Merci à tous.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.